Alors, donc cette semaine, la paracha de Vaishlach, c'est une paracha riche en événements, plus ou moins tragiques, d'accord, et qui s'apparente beaucoup à l'actualité que nous vivons. D'accord, on a une captive, c'est Dina, on a une guerre, c'est Yaakov et Esav, on a une libération de prisonniers, dans la paracha, quand les frères y vont démolir tout, c'est le Hamas, ils démolissent tout, d'accord. Alors, mais il n'y a pas d'échange de prisonniers dans cette paracha. D'accord ? Donc on en reparlera de cette histoire d'échange de prisonniers. Mais en tout cas, il y a cette lutte entre Yaakov et Esav. Et il y a ce fameux verset qui dit que quand Yaakov il a appris que son frère Esav venait à sa rencontre avec 400 soldats pour le massacrer, il s'est préparé comme il a pu, hein. Il avait eu 4 femmes, 12 enfants, bon, c'était pas des bébés les enfants, mais il s'est dit, allez, on les encercle et on les massacre. Donc, ça nous rappelle beaucoup d'histoires. Mais il y a un passage étonnant qui dit, Vaïra Yaakov, et Yaakov a eu peur, mais Od, il a beaucoup eu peur, Vaïet Serlo, et ça l'a fait souffrir. D'accord ? Donc non seulement il a eu peur, mais ça l'a fait souffrir de voir, d'abord, que son frère venait l'attaquer,
et le nombre de...
Et le nombre, etc., ok. Et il y en a même qui disent que pourquoi ça l'a fait souffrir? Parce que ça l'a fait souffrir d'avoir eu peur. Normalement, il n'aurait pas dû avoir peur parce qu'Hachem lui a dit je vais te protéger. Mais malgré tout, même, c'est intéressant de dire, même si Hachem il te dit je vais te protéger, mais quand tu vois l'ennemi et le canon devant toi, tu dis bon, j'ai la Emouna, mais quand même, j'ai le droit d'avoir peur. D'accord? Et donc le passage qui dit Vayira Yaakov Me'od, il a eu très peur. Vayet Serlo, et ça l'a fait souffrir. D'accord, de façon allusive, ça lui a fait souffrir d'avoir eu peur.
Ouais.
Parce que avoir peur devant le danger, après à posteriori, on se dit mais alors quelle émouna j'ai de la émouna moi. C'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Nous on va faire le sujet de l'explication de Rashi. Rashi dit, Vaïra, il a eu peur. Shma Yareg, peut-être il va être tué.
Ouais.
Parce que c'est vraiment un combat à mort. C'est des soldats, c'est pas des copains. Vayetserlo. Et ça l'a fait souffrir quoi? Im yarog hu et aharim, si lui va tuer des autres. Ça veut dire qu'il a eu peur de mourir, mais il a également été éprouvé parce qu'il risquait de tuer des gens dans cette guerre-là. D'accord? Bon, c'était un tueur à gage, Yaakov. C'est-à-dire que ses deux enfants, à deux, ils ont tué une ville, et même lui, il était très très fort, comme on a vu dans la parasha de la semaine dernière, que tout seul, il a levé une pierre, que même les 10 bergers ou les 12 bergers, ils arrivent pas à lever. Donc, Yaakov était quelqu'un de très très fort physiquement. Donc, ça lui faisait pas peur vraiment. Mais il disait, il va y avoir des dégâts là-dedans. C'est ou moi ou lui. D'accord? Et donc, je vais massacrer tout le monde. Ok? Alors, on va étudier aujourd'hui un commentaire. Le Réhem. Vous voyez, c'est marqué en bas, le Réhem. Alors, je n'ai même pas mis son nom parce qu'il est connu sous ses acrostiches. Réhem, c'est Rabbi Eliaou Mizrahi. Vous voyez, juste en dessous de Rashi, là. Ah, Rabbi Eliaou Mizrahi,
ah, oui.
C'est un des grands commentateurs fondamentaux de Rashi sur le Chumash. En général, on connaît le Gourarié et le Maharal. Le Maharal de Prague, il a créé un grand commentaire sur Rashi. Mais il y a des autres commentaires très connus, en particulier le Réhem. Qui est le Réhem, Rabbi Eliaou Mizrahi? C'est un Chacham Bashi. Qu'est-ce qu'on appelle un Chacham Bashi? À l'époque, c'était le gouvernement ottoman turc qui gouvernait tout le Moyen-Orient. D'accord? Et il mettait un rabbin, le grand rabbin de l'Empire Ottoman. On appelait ça le Chacham Bashi. Rav Ovadia, il était un peu comme Chacham Bashi. Il n'y avait plus l'Empire Ottoman, mais il était un peu rabbin du Moyen-Orient. Et donc, ce Rabbi Eliaou Mizrahi, il a vécu au 15e siècle, 1450, comme ça, jusqu'à 1530. Et il vivait à Constantinople. D'accord? Donc, en Turquie, c'est, Constantinople, c'est l'équivalent maintenant de, c'est quoi? Constantinople, c'est, comment la capitale de la Turquie, c'est...
Istanbul.
Istanbul, voilà, Constantinople. Et donc, il vivait là-bas, il était rabbin de Constantinople, et Chacham Bashi, oh, c'est peut-être pas ça, mais c'est pas grave, il était Chacham Bashi de tout l'Empire Ottoman, d'accord? Et donc, à ce titre-là, c'est lui qui était, il était très actif pour défendre les Juifs, il y avait toujours des accusations, enfin, il y avait, les Juifs, ils n'étaient pas non plus très bien traités dans l'Empire Ottoman, et lui, il a beaucoup défendu les Juifs, il a défendu aussi en particulier les Maranes. Parce que comme on est en 1450 ouais. jusqu'à 1530, il a vécu Hakam Bashi, beaucoup de juifs d'Espagne, des Maranes, sont venus se réfugier en Turquie. Et donc lui, il a beaucoup œuvré là-dessus. Et...
Mais qu'ils n'ont pas renié la...
Ah, bien sûr. Et donc, il était un très grand commentateur, il a écrit un très gros commentaire sur Rashi. Et c'est un de ses commentaires qui va nous intéresser, très intéressant. Il dit ceci, la question elle est, il a eu peur d'être tué, comme normal. Mais pourquoi il a eu peur de tuer les autres? Quand il y a une guerre, on n'a pas peur de tuer les gens. Tu te bats, tu te bats. Les gens d'ailleurs, ils viennent pour te tuer, c'est pas moi. Si, c'est moi qui attaque, je comprends. Mais les gens viennent m'attaquer, je me défends. En me défendant, j'ai peur d'être tué. Mais pourquoi il dit, pourquoi Rashi dit, il a eu peur si lui va tuer des autres? Ben, tant pis pour eux, il ne fallait pas qu'ils viennent. Pourquoi une responsabilité?
Parce qu'il a écouté sa maman pour la victoire de qui a déclenché la haine de son frère.
Ah, d'accord. Mais à ce moment-là, les autres, ils n'ont pas à se mêler. Ça, c'est une guerre entre mon frère et moi. Mais il n'y a pas besoin de... 400, pourquoi vous venez défendre la cause de qui? Vous venez m'attaquer. Et tant pis pour vous, hein. Alors, qui sont ces autres? Est-ce que ces autres, c'est son frère? Parce qu'il s'est marqué, il a eu peur d'être tué ou de tuer des autres. De tuer des autres. Si tu me dis, il a eu peur de tuer Esav, je comprends, j'ai peur de tuer mon propre frère. Même si on est en bagarre, ça me dérangerait de tuer mon frère. Mais il a dit les autres, on parlait de ces 400-là. Et qui sont ces 400, Véry? C'est qui ces 400 bonhommes qui sont venus avec Esav? C'est pas de la famille d'Esav. C'est des plantons qu'il a trouvé là-bas, qu'il a amené avec lui, ou des soldats, ou, c'était pas l'armée.
Mercenaires.
Pourquoi? Des mercenaires, alors justement, on a l'impression que c'est des mercenaires genre Wagner. Mais c'est pas du tout. La preuve en est, c'est que à la fin, quand Yaakov, ils vont rencontrer son frère, etc., et qu'ils vont faire une semi-paix, et que son frère, il va lui dire, bon, ça va, et on efface tout, on repart à zéro, etc., c'est marqué, Esav est reparti. Il a laissé Yaakov et il est reparti. Alors Rashi dit, il est reparti, et les 400, ils ont disparu de l'affaire. Rashi dit un truc extraordinaire, que les 400, ils ont filé les uns après les autres. Quand ils ont vu que Esav, il attaquait une famille avec 12 enfants, des femmes et des enfants, ils ont dit, mais ça va pas, nous on va participer pas. Et ils se sont défilés les uns après les autres. Et Rashi dit qu'Hachem les a récompensés plus tard à ces gens-là, ces 400. Donc en fait, c'était pas des mercenaires, c'était des gens qu'il a enrôlés comme ça. Et que quand ils ont vu la situation, qu'ils ont vu que c'était pas juste quoi d'attaquer ces gens-là, eh bien ils se sont défilés. D'accord? Donc, en fait, quand on connaît tous les détails de la situation, ça nous laisse comprendre que c'est pas aussi simple qu'on pensait cette guerre-là. Ok? En tout cas, la question elle est, la question du Réhem, c'est Vayet Serlo Shma Yarog Acherim. Donc en réalité, pourquoi je trouve intéressant ce texte-là? Parce que il va, vous voyez, c'est vrai qu'on parle de Yaakov. Et c'est vrai que Gnu Esav, c'est un truc historique, totalement déséquilibré, c'est une famille contre une armée. Mais en réalité, on va voir ici l'idée de moralité dans la guerre. D'accord? Souvent on dit l'armée israélienne, c'est une armée très morale, etc. D'où ils ont hérité cette moralité? C'est vrai que le peuple juif, il est particulièrement moral. On fait attention, même nos ennemis, on y fait attention, ils envoient des tracts pour pas tuer les civils, etc. On n'a jamais vu ça dans aucune armée au monde, ça existe. On craque et puis c'est fini. Et pourtant, on voit, ils font attention, ils ne tirent pas sur les enfants, ils ne tirent pas sur ci, ils ne tirent pas sur ça. Donc on voit qu'il y a une moralité dans l'armée. D'où ça nous est sorti, cette moralité dans l'armée? Et voir donc dans le Réhem, vous voyez voir comment il exprime ça. Okay? Alors, il dit, première ligne, Bereshit Rabba, dans le Midrash, Yesh Mefarshim, il y en a qui disent qu'il a eu peur de tuer des autres, Shma Yarok et Esav. Il a eu peur de tuer Esav. Oui. C'est qui les autres qu'il a eu peur de tuer? C'est Esav, son frère. Et alors, pourquoi il aurait eu peur? Nous, on a dit, bon, parce que c'est son frère. Et c'est son frère, si ton frère il veut te tuer, tu le tues. Hein. Il n'y a pas, même dans la Torah, si ton frère il se lève pour te tuer, tu le tues. Qui que ce soit, même ton père. Ok? Bah oui, si quelqu'un il se lève pour te tuer, tu le tues. C'est ta vie en premier. Il n'y a pas mon père, mon frère, ma mère, s'il est devenu fou, ben, je me défends. Maintenant, son frère est devenu fou, il veut le tuer, je me défends. Et il dit pourquoi? Il a eu peur quand même de le tuer, veillez qu'à l'ennemi à vivre, et que son père le maudisse. En fait, il n'a pas eu peur de tuer son frère, mais il a eu peur d'être maudit après par son père. Pourquoi? Parce que son père, il considérait toujours Esav comme quelqu'un de bien. Il y a le Yitzhak. Il a toujours estimé Esav. Soit parce qu'il était dupe, parce qu'il pensait qu'Esav était quelqu'un de bien, ou bien soit parce qu'il pensait qu'il y avait peut-être quelque chose à tirer en lui accordant de la confiance. C'est plus comme ça. C'est pas qu'Esav était manipulé que Yitzhak était manipulé par Esav, c'est que Yitzhak, il pensait que même quelqu'un de pas bien, si tu lui accordes de la confiance, d'accord, tu vas pouvoir le transformer. Et donc il s'est dit, Yaakov, il s'est dit, si je tue mon frère, mon père m'en voudra toujours. Et ça, il voulait pas. C'est ça qu'il a eu peur. Et c'est marqué comme ça dans le Tanhuma. Aval, mais arigatam shel acherim, de tuer les autres, les 400, loyametzer, ça le faisait pas souffrir. Et je vous ai mis en gras des points importants. Il y aura deux points importants dans chaque paragraphe. Mipne shaba leorgecha, ashkem leorgo. Celui qui se lève pour te tuer, lève-toi toi aussi pour le tuer. Tu vois, les 400, j'ai pas d'état d'âme à tuer ces gens qui viennent m'attaquer. Ils viennent pour m'attaquer, je les tue. Et même Esav, si vous remarquez le Midrash, il dit pas que il avait des états d'âme de tuer Esav. Il s'en fout de tuer Esav. Il savait bien le tuer, je le tue. Mais il avait peur de la réaction de son père. Ok. Et où est-ce qu'on a vu cette règle? Celui qui se lève pour te tuer, tu as le droit de le tuer, qui que ce soit. D'où elle sort cette règle-là? En vérité, on pourrait imaginer une règle de Torah qui dirait que on va pas faire couler une vie. D'accord? C'est-à-dire, lui, il veut me tuer, c'est un pauvre type. D'accord? Maintenant, moi, pourquoi moi, je vais devenir un meurtrier parce que l'autre, il veut être un meurtrier? D'accord? C'est pas le même problème de la peine de mort, etc. Maintenant, même quelqu'un... Alors, c'est vrai que c'est un peu... ça fait un peu bizarre. Mais pourquoi moi, je vais devenir un meurtrier parce que quelqu'un veut me tuer? Ben, tant pis, c'est lui qui est un meurtrier. Alors, ça, c'est un digne de la Torah. Abba l'argecha shkem l'orgo, kedenaf kalan mikra, comme on a appris d'un verset. Le pasuk qui dit, im ba marteret imatse aganav. Si dans le trou, ou même le tunnel, marteret, tu trouves le voleur, c'est-à-dire qu'un vol par effraction, d'accord? C'est un digne de la Torah, que si tu vois un voleur pénétrer par effraction chez toi, veikaou, et qu'on le tue, va mettre, et qu'il meurt, ce voleur, enlodamim. Il n'y a pas de sang, ça ne s'appelle pas du sang. Pourtant, ce n'est qu'un voleur. La Gemara a dit pourquoi. Les fiches et bas à l'isken et fachot, à la quatrième ligne, vous êtes bon?
Très bien.
C'est bon, quatrième ligne du paragraphe, vous êtes bon?
Oui, ici.
Voilà. Les fiches et bas à l'isken et fachot, parce que quelqu'un qui fait un cambriolage, il vient toujours sur un problème de meurtre. Pourquoi? Shiodea, parce qu'il sait, Sheim Timatse Nuchoter, si on va le trouver en train de cambrioler, Lotaminatsmecha Milatil Mamandra, tu pourras pas tenir et voir ton argent volé. Et donc tu voudras te défendre. Et lui aussi va se défendre. Veuba Leda Atken. Et lui, il vient avec cette idée-là. Shiakum Alecha, que si tu te défends, il va se lever sur toi, Veyarecha, il va te tuer. D'accord? C'est-à-dire, c'est un raisonnement très complexe que la Gemara. Tu vois un voleur qui cambriole la maison, il passe par la cuisine, d'accord? Et tu le trouves dans la cuisine. Tu prends ton pistolet, tu le tues. Tu dis, mais comment? Je le tue, mais il est venu juste cambrioler la maison. Non, c'est pas vrai. Quelqu'un qui vient par effraction, il sait très bien que le propriétaire de la maison risque de se défendre. Et donc, il a prévu que si jamais l'autre il se défendait, puisqu'il vient en sachant qu'il y a quelqu'un dans la maison. D'accord? S'il vient, si tu trouves un cambrioleur, t'étais pas là, et le type il vient cambrioler alors qu'il est pas là. Alors, il vient pas pour te tuer, il vient pour cambrioler. Mais si il sait que t'es là la nuit, un type qui vient, ou en plein jour, comme il s'appelle, le jackpot, hackjacking, ouais, le type, il vient en plein jour pour te cambrioler, il sait très bien que si tu résistes, tu flingues. Ouais. Et la même chose, s'il vient par effraction, il sait aussi. Et la Torah, elle dit, il sait que tu peux te défendre et qu'il va te tuer, donc toi tu sais qu'il risque de te tuer, donc tu peux te défendre à l'avance, d'accord? Même si tu l'as pas vu sortir le pistolet. Les fichar, c'est pour cela, Amra Torah, la Torah, elle a dit, Ashkem ata ve'argeu, lève-toi et tue-le. Donc, bien évidemment, quelqu'un qui vient avec une arme, ben, c'est sûr que tu peux te défendre, mais celui-là c'est encore pire. Tu as pas vu l'arme, tu as vu juste le cambrioleur, et la Torah, elle dit, tu peux. Donc, de là, la Gemara, elle dit, on apprend de là, que celui qui se lève avec l'intention de te tuer, la possibilité de te tuer, tu le tues. D'accord? Par exemple, tu vois une bande, ou des jeunes qui viennent t'attaquer, ou tu sais pas ce qu'ils vont faire. Ils sont là menaçants avec des couteaux aussi et ça. Tu sors ton flingue, tu les dégommes tous, si tu peux, quoi. D'accord?
Ouais. C'est une loi américaine, ça.
Que quoi?
Ils ont peut-être pris de la Torah, ou j'en sais rien.
Ouais.
Les Américains mettent dans leur jardin un petit panneau, notre espace. et c'est écrit bien souvent, celui qui trespasse, il peut trépasser, c'est-à-dire
qu'est-ce que marqué not
trespass.
C'est quoi trespass?
No trespass.
Ah, ne traversez pas.
No trespass. Ne pas trépasser, c'est s'introduire chez autrui. Et si on s'introduit chez autrui, que ce soit pour voler ou que ce soit pour n'importe quoi, le propriétaire a le droit de tirer.
Ah ouais?
Bien sûr.
Et en France, c'est pas comme ça.
C'est que quand on voit notre espace, même si on a fait tomber un papier et qu'on veut le récupérer, il faut sonner à la porte, lui dire, monsieur, j'ai fait tomber le bout de papier, oui, oui, prends-le.
Mais ce qui est juste, en fait.
Mais on ne s'introduit pas dans la propriété d'autrui.
Bon. Eh bien, en tout cas, voilà, c'est la première loi. Donc, il dit, Khazak, j'ai pensé à toi, je me suis dit, est-ce qu'il est encore fatigué? Ah, Khazak, allez, viens. Il était malade, le pauvre. Oh. Notre cher Michael, c'est bon? Allez, tiens. La bonne santé. Alors, regardez, donc on est, écoute-moi, Michael, on est dans... Ben, ceux qui nous écoutent, ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font? On est dans l'histoire que Esav, il attaque Yaakov avec 400 soldats, et que Yaakov, d'accord, il a peur de tuer des gens. Et donc, le Midrash, il dit, et de qui il a peur de tuer? Certainement pas des soldats. Il a peur de tuer son frère. Et pourquoi il aurait peur de tuer son frère? Non pas parce qu'il risque de le tuer. Tant pis pour lui, il vient me tuer, je me défends. Comme les 400, d'accord? C'est la loi de la légitime défense. Et la loi de la légitime défense, c'est une loi de la Torah. D'accord? Et en réalité, vous voyez que même la légitime défense, il faut le prouver dans la Torah. C'est pas évident, c'est-à-dire que ça doit se justifier. Et donc, pourquoi il a eu peur de tuer Esav? Uniquement parce qu'il avait peur de la réaction de son père. Très bien. Mais im tomar. Alors, regardez, il démarre le Réhem. Et si tu me... Alors, au deuxième paragraphe. Si tu me demandes, valo Esav. Mais pourtant, Esav, gavra almaou, c'est un homme violent. Ushma eviam be'alkocham. Mais peut-être il les a amenés contre leur gré. Ça veut dire que, vous voyez, il va développer des états d'âme de Yaakov. C'est-à-dire, il pose des questions les unes après les autres. Et en fait, dans la manière dont il pose des questions, ça pourrait exprimer les états d'âme d'un soldat. Ici, c'est les états d'âme de Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, il s'est peut-être dit, mais attends, ces gens-là, qui nous dit que c'est des soldats, des mercenaires? Mais peut-être c'est des gens qu'il a enrôlés de force. Et ça, c'est un homme brutal. C'est un homme violent. Peut-être qu'il a attrapé 400 bonhommes et qu'il leur a dit, venez où je vous tue. Et donc, à ce moment-là, et alors? Et s'il les a enrôlés de force, oui, eh bien, ils sont pas responsables. Regardez comme ça, il dit, Yesh Lomar, on doit dire, Afiloachi, malgré tout, Lohaya laem lishmoalo. Ils auraient pas dû écouter. Tu comprends? Ça veut dire, sous-entendu, voilà, il y a des jeunes, d'accord? Je suis attaqué par une armée. Donc, vous voyez, il faut remettre tout dans le contexte. Vous voyez, je tombe, moi je suis soldat. Soldat ou je suis un kidam? Et je suis attaqué par une bande. Ok? Mais je vois dans cette bande, il y a des jeunes, il y a des gens un petit peu, je me dis, mais c'est pas des militaires ceux-là. Oui, mais ils viennent t'attaquer. Oui, mais eux, ils ont été forcés par le chef de la bande, ou ils étaient forcés par la société, ou ils ont été forcés par le Hamas, on sait rien quoi. Il dit non, c'est pas une raison. Loyalem lishmoa, ils auraient pas dû écouter. Sheare nimnu vegamru, parce qu'on s'est compté et on a dénombré les avis, baliet betnitza, dans le grenier de betnitza, c'est une expression, belod, kol averot shebat Torah, que toutes les averot de la Torah, imomri moulola adam, avor vealtehareg, si on dit à un homme, transgresse et tu ne seras pas tué, Yavor, il peut transgresser. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on a le droit de transgresser sous la contrainte. Ça veut dire que si je vous dis, voilà, mange ta ref, transgresse Shabbat ou je te tue, tu transgresses, tu manges ta ref. Tu jettes tes tefilines ou je te tue, tu les jettes. Je ne vais pas perdre la vie, moi, pour ça. Chout, sauf, à trois avérotes, avodat kochabim, l'idolâtrie, Gilou Yarayot, les mariages incestueux, Shfichut Damim et le meurtre. Que ces trois avérotes-là, on doit être prêt à se laisser tuer. Or ça, c'est une règle qui est valable pour les juifs comme pour les goïms. Ça veut dire qu'il n'y a pas de justification par la contrainte de devenir un meurtrier. D'accord. Donc j'ai pas d'état d'âme à avoir. D'accord. J'ai des petits jeunes de 17 ans. On peut imaginer, vous voyez, toutes les situations qu'on rencontre, que le Hamas, il a poussé des gens à venir attaquer des juifs, mais c'est des jeunes, ils ont été forcés. Il n'y a pas. On doit, la morale universelle préconisée par la Torah, elle est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sous la contrainte. On doit se laisser tuer. Tu ne peux pas dire, ah oui, il voulait me tuer. Mais il voulait tuer, tu te laisses tuer. D'accord. Donc c'est pas tout à fait pareil. Si vous voulez me tuer, moi je me défends. Oui, je me défends parce que je défends ma vie et je le tue, tant pis pour lui. Mais si il voulait me tuer pour que je tue quelqu'un d'autre, j'ai pas le droit. Je peux tuer quelqu'un d'autre pour défendre ma vie contre l'agresseur, mais je ne peux pas défendre ma vie en tuant une tierce personne. Vous voyez, ça commence à être compliqué parce que c'est la même chose. Comment ? Quelle différence si je tue mon opposant ou si je tue une tierce personne ? Je défends ma vie ? Non. Tu dois être laisser ta vie, tu dois être prêt à mourir pour ne pas tuer une tierce personne en défendant ta vie. Donc là, vous voyez ce raisonnement de Yaakov, il a regardé les 400 soldats, et certainement c'était des briques et brocs, la preuve qu'ils sont partis, d'accord ? C'était pas des mercenaires. Il a vu arriver une bande de 400, briques et brocs un peu des jeunes, décider ça, que Esav il avait rameuté autour de lui pour en faire une mini-armée. Il a dit, mais c'est qui ces farfelus là qui viennent m'attaquer? Et donc il s'est dit, mais je peux pas les tuer. C'est des petits jeunes, c'est des branquignoles, c'est pas des militaires. Et après il s'est dit, mais pas du tout, pas du tout. Il a posé le problème, il a dit, mais pas du tout. Ces gens-là, c'est des meurtriers potentiels. Ils ne devaient pas écouter. D'accord qu'il les a menacés, mais tant pis pour eux. Maintenant c'est moi, c'est ma peau, donc c'est eux qui viennent m'attaquer, je les tue. D'accord? Donc, c'est pour ça, c'est la première état d'âme, d'accord, vous voyez, qui il a peur? Parce qu'en réalité, le fond du problème, Yaakov, il a eu peur, d'accord? C'est pas un gamin, d'accord? Donc, il a pas peur de la bagarre, Yaakov. Il a pas peur de tuer son frère, il a pas peur de tuer 400 personnes, rien ne lui fait peur. Il a affronté plus que ça. Donc, pourquoi la Torah, elle dit qu'il a peur? Le Midrash, il dit, il a eu peur de tuer son frère. Et alors? Ah non, mais s'il tue son frère... Oui, son père va le maudire, c'est ça qu'il a peur. Il veut pas en arriver là. Mais son frère, je m'en fous. Et ça, c'est un pauvre type, je le tue. Après, et les 400, peut-être il a eu peur de tuer les autres. Il dit, pourquoi il aurait eu peur? Il dit, parce que c'est des gens qui ont été forcés. Il dit, non, ça, il peut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont manipulés. C'est vrai, c'est possible, mais la manipulation n'est pas une justification pour tuer quelqu'un d'autre. Donc, j'ai aucun état d'âme à vouloir les tuer. Ok? Art caché. Vous êtes bon? Je suis au troisième paragraphe.
Oui, très bien.
Art cependant, caché. J'ai un problème. Dilma, lola rog otonit kavnu. Peut-être c'était pas pour le tuer. Et là, la rog acherim shayuimo. Peut-être c'était pour tuer d'autres gens qui étaient avec lui. Ça veut dire qu'en réalité, il se dit, Yaakov, il a encore un autre état d'âme. D'accord? Moi, j'explique moi par des états d'âme, juste pour justement transposer les choses dans une moralité universelle du soldat, si vous voulez. C'est ça mon idée. Mais la manière dont il découpe toute la problématique, ça nous montre qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'un militaire. Donc, il dit, Yaakov, peut-être il s'est posé une question. C'est que Esav, c'est son frère. Il a engagé 400 personnes. Mais peut-être c'était pas pour tuer Yaakov. Peut-être que Esav, il a dit à ses soldats, on va dégommer tout le monde. Mais Yaakov, c'est mon frère, vous ne le touchez pas. Ou je le prends en otage, ou etc. Mais vous ne le touchez pas. Donc il s'est dit, mais si c'est comme ça, peut-être qu'ils ne viennent pas me tuer à moi. D'accord? Il avait peut-être des serviteurs, il avait peut-être... On ne sait pas quelle est l'intention. Donc tu vois quelqu'un qui vient t'attaquer. D'accord? Et tu ne sais pas qui vient attaquer. Est-ce qu'il vient m'attaquer à moi, il vient attaquer autour? Ok? Shayoimo de'ashta. Si ils ne viennent pas me tuer, à ce moment-là, il n'y a plus la légitime défense, s'ils ne viennent pas te tuer à toi. Qu'est-ce qui se passe si tu es, par exemple, un civil, un militaire, un homme, une femme, et tu sais que l'armée ennemie, ils ne viennent pas t'attaquer à toi, mais ils viennent attaquer ceux qui sont autour de toi. Est-ce que tu peux te défendre et les tuer? D'accord, c'est tous des problèmes moraux. D'accord? Ça veut dire, ça va dégommer autour de moi. Ok, ils vont tuer tous mes copains. Mais moi, ils ne me toucheront pas. Parce que, j'invente, hein, j'essaie de vous imaginer. Parce que moi, je suis un otage potentiel. Moi, je suis un otage potentiel, donc moi, ils ne me toucheront pas. Mais ils vont tuer tous ceux qui sont autour de moi. Tous les militaires. Est-ce que je peux me défendre et les tuer.
Oui.
Pourquoi oui? Attention. D'accord? Vous êtes par exemple ici, il y a un type qui rentre.
Comment il sait qu'ils ne vont pas le tuer?
Voilà. Il faut imaginer la situation. Lui, il s'est dit, Yaakov, il s'est dit, moi, c'est mon frère. Il ne peut pas me tuer. D'accord? Il va pas me tuer parce que sinon, mon père, il va le dégommer. Et il a trop d'estime pour papa pour me tuer. Mais il va dégommer ma famille, il va dégommer les esclaves, il va dégommer les serviteurs. Mais moi, je pense qu'il va pas me tuer. D'accord? Ou n'importe quelle situation où tu penses qu'il va pas te tuer. Est-ce que tu peux te défendre contre cet ennemi alors qu'il va pas te tuer? Mais il vient tuer les autres.
Mais il va défendre sa famille.
Ah, est-ce qu'on a le droit de tuer pour défendre un autre?
Tu choisiras. Pour défendre sa famille, oui.
Qui a dit ça?
Moi.
Je comprends. Comprenez, hein, attention. Comprenez. Vous avez raison.
C'est mon raisonnement.
Non, mais vous avez raison. Mais si vous voulez, on est en train d'asseoir des principes qui, pour nous, nous paraissent évidents. Oui. La légitime défense, vous voyez que la Gemara l'a pas dit, c'est normal. Il faut l'asseoir. La preuve en est, c'est que quand vous avez une légitime défense avec une tierce personne, c'est plus valable. Par exemple, ce qu'on a dit, si quelqu'un il vous menace, il dit je te tue si tu tues pas Michel, qu'est-ce que vous faites? C'est des états d'âme, c'est compliqué. Alors maintenant, la même chose, quelqu'un il vient tuer les gens autour de vous, quelqu'un il rentre dans la pièce, il dit je vais dégommer tout le monde, il dit ah, David, bouge pas, je te tue pas parce que je te connais, toi. D'accord? Il me connaît, mais je vais le laisser dégommer tout le monde. Exactement, Chazak Oborour. Alors il dit, donc à la deuxième ligne, c'est que s'il vient tuer autour, il n'y a plus la loi de la légitime défense. Et là, Mishum Rodef, vous voyez, vous avez le mot en gras, oui, du deuxième paragraphe, vous soulignez. Donc vous avez deux grands thèmes. Vous avez le premier thème qui est en gras, Abba Leorgecha, Shkem Leorgo, celui qui vient de tuer, tu dois te lever pour le tuer, c'est la légitime défense pure. Et le deuxième loi, c'est la loi de Rodef, la loi du poursuivant. C'est des lois fondamentales dans la Torah. C'est quoi la loi du poursuivant? C'est une loi extraordinaire qui dit que quand tu vois quelqu'un poursuivre quelqu'un d'autre pour le tuer, d'accord, tu tues le poursuivant. Directement. Tu discutes pas. Mais moi, je suis en dehors, moi. Moi, je vois dans la rue un type, il court derrière un autre avec un flingue. Je vais te tuer. Je discute pas, je sors mon pistolet, je le tue. Mais je suis pas dans la scène, moi. Non. La Torah te dit qu'il y a une obligation de tuer celui qui poursuit un autre pour le tuer. Donc c'est aussi une forme de légitime défense qui s'oppose à la première.
C'est voyez assistance à personne en danger.
Exactement. C'est assistance à personne en danger. Donc le premier cas, c'est légitime défense. Et le deuxième cas, assistance à personne en danger. Alors là, on va aller très vite, mais l'assistance à personne en danger, c'est complexe. Qu'est-ce qui se passe si je vois un policier courir avec un flingue derrière un bandit? Qui je tue? Le policier ou le bandit?
Le policier.
Je comprends. En vérité, c'est simple. Dans un policier, un bandit, tu dis, bon, je laisse tranquille, je ne vais pas me mêler. D'accord? Mais si c'est deux bonhommes qui se bagarrent, d'accord? Un qui court derrière l'autre, tu ne sais pas qui est le bandit. Est-ce que c'est le premier? Est-ce que c'est le deuxième? Des fois, c'est le deuxième qui a été attaqué et qui se défend en poursuivant l'autre. Donc ça, c'est des cas complexes. D'accord? C'est pas ça qu'on va voir maintenant, mais en tout cas, c'est pour vous dire que la règle de assistance à personne en danger, c'est une loi complexe. Et donc, il dit, le réhem, il dit, mais en réalité, d'accord, c'est ça qui est dans la tête de Yaakov. La deuxième problématique, d'accord, on avait une première problématique, c'est est-ce que vraiment ils sont venus me tuer? Et la deuxième problématique, peut-être qu'ils étaient forcés. Il a répondu, non, ça n'existe pas forcé, je veux rien savoir. Il n'y a pas, on ne peut pas forcer quelqu'un à tuer un autre. Ils n'avaient qu'à se défendre, enfin, ils n'avaient qu'à ne refuser.
Ou se laisser tuer.
Très bien. Il dit, mais j'ai un autre problème moral. Est-ce que c'est moi qui sont venus tuer? Peut-être ils viennent tuer les autres. Ah, mais s'ils viennent tuer les autres, ben, c'est pas grave, je les dégomme. Donc c'est pas un problème. Pourquoi ça lui pose un problème s'ils n'ont pas vu le dégommer à lui? Il dit, c'est un rodef à chachavero, celui qui poursuit son ami, les orgo, pour le tuer. En orginoto, on ne peut le tuer. Et là, kshena nicholim, l'otil est un irdaf, que si on ne peut pas sauver le poursuivi, bechad mevarav shel rodef, avec un des membres du poursuivant. Ça veut dire que dans ce cas-là, regardez, c'est une loi extraordinaire. Dans la légitime défense, oui, légitime défense, c'est-à-dire tu veux me tuer, je te tue. Est-ce qu'on est obligé de tirer dans les pattes, dans les jambes? Non, légitime défense, je me défends, ça, je te tue, je ne réfléchis pas. Tu viens avec un pistolet, je vais réfléchir, ah non, peut-être que je peux tirer, il n'y a pas. Par contre, dans la loi du Rodef, dans le poursuivant, oui, je n'ai pas le droit de le tuer si je peux l'empêcher de nuire. Donc non assistance à la personne en danger. Je dois d'abord lui tirer dans les jambes, lui tirer dans les bras, avant de lui tirer dans la tête. J'ai pas le droit. Parce que c'est pas ma vie qui est en jeu, c'est la vie d'une tierce personne. Et à ce titre-là, oui, j'ai pas le droit de le tuer directement, je dois d'abord essayer de l'empêcher de nuire. Et si je l'ai tué, d'accord, alors que j'avais la possibilité de l'empêcher de nuire, je suis coupable de meurtre. Ça vous rappelle les histoires, d'accord? Alors attention, hein, il y a des choses complexes, parce que c'est, vous rappelez l'histoire du soldat qui avait tué le terroriste. C'est le problème des policiers,
oui,
d'accord,
oui.
Que on leur dit mais il fallait pas le tuer, il dit mais comment il fallait pas le tuer, voilà, d'accord. Est-ce que si tu peux empêcher un terroriste de nuire en le tirant dans les jambes et tu le tues, est-ce que c'est bien ça ou c'est pas bien, d'accord. En tout cas, encore faut-il lui accorder le statut de Rodef. Et il dit, donc je reprends, troisième ligne, El Orginoto, on n'a pas le droit de tuer un poursuivant. Troisième ligne du paragraphe, vous êtes bon? Et là, que seulement...
Je vois exactement où c'est.
Oui, je sais, mais j'ai plus de... J'ai mon temps.
Ah, excuse-moi.
Et là, Kshenan, Yocholin, l'a-t-il est un irdaf, que si on ne peut pas sauver le poursuivi, Bechad Mevarav Shel Rodef, avec un des membres du poursuivant. Chez Katouyado, si tu le coupes la main, on règle au son pied ou tu le blesses. Chez Az Nitan Rechut le Rodef, le Hatzil est un Irdaf Benavchou. Que à ce moment-là, on a le droit de tuer le Rodef pour sauver le poursuivi Benavchou chez le Rodef en tuant le poursuivant. A Falpi Shadain Loarag à Rodef est un Irdaf. Bien qu'il n'a pas encore tué. C'est comme la légitime défense, enfin, pardon, l'assistance à personne en danger, c'est comme la légitime défense. Il ne faut pas attendre que les choses se passent, sinon c'est trop tard. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas encore, il n'a pas tiré, etc., toi tu tires. D'accord? Et d'abord tu lui tires dans les jambes.
Le début du passage, là, la phrase, c'est avec quelqu'un du poursuivant?
Non. Tu peux sauver l'âme du poursuivi en tuant le poursuivant. Par l'âme du poursuivant. C'est toujours le problème, en réalité, le fond du problème, c'est pourquoi sauver une âme en détruisant une autre. Quelle est la logique de ça? Alors, je viens de dire, oui, mais enfin, c'est normal, l'autre c'est un bandit, lui c'est un... D'accord, mais pourquoi tuer quelqu'un, pourquoi détruire une âme pour en sauver une autre? Laisse faire les choses. Qu'est-ce que tu as besoin d'intervenir? D'accord, bon, c'est vrai que je peux imaginer des grands un pacifiste parler comme ça. C'est-à-dire, c'est vrai, il le poursuit pour le tuer. C'est un pauvre type. D'accord? Et je sais pas ce qu'il mérite. Mais pourquoi tu veux que je le tue à lui pour sauver l'autre? Ah, mais parce que l'autre, il est poursuivi. D'accord, il est poursuivi. Mais de toute manière, il va y avoir un mort. Pourquoi toi, tu interviens? Laisse faire les choses. D'accord? Alors, quand c'est moi, d'accord, qui suis en danger, je comprends. C'est-à-dire, on peut pas demander à un homme de se laisser tuer. Encore que je pourrais imaginer des grands pacifistes, je veux dire Gandhi ou j'en sais rien quoi, qui dit je te tue, hein, je te tue. Ben, tue-moi. Qu'est-ce que je sais pas. Tu peux le tuer? Non, je le tue pas. Il a qu'à faire, il a qu'à me tuer, c'est son problème. Il rendra des comptes. Pourquoi moi je veux le tuer, moi je vais me salir les mains pour sauver ma vie? Et la Torah dit non, c'est pas comme ça. Tu dois sauver ta vie, même au prix de la vie de l'autre. Bon, ça c'est phase 1. C'est légitime défense. Mais la phase 2, l'assistance à personne en danger, elle est encore plus grave. Parce que je tue quelqu'un pour en sauver un autre. Mais pourquoi? Pourquoi tu vas tuer A pour sauver B? C'est pas toi qui es en jeu. Et pourtant, la Torah dit oui, tu as l'obligation de tirer sur A qui est en train de courir derrière B. D'accord? Mais là, la Torah, elle met une limite, c'est que c'est si tu ne peux pas faire autrement. Si tu arrives à le blesser pour pas qu'il tue B, alors tu dois le faire. Et si tu le fais pas, tu es coupable. D'accord? Parce que tu te mêles de quelque chose qui n'est pas ton problème.
Il te regarde pas.
Vous me suivez?
On est dans le...
Hein?
Et l'histoire du flic et le bandit qui s'est gay.
Non, si vous voulez, c'est le flic. Parce que, oui. Eh oui, parce que là, si vous avez la preuve, c'est un flic qui court derrière un bandit, d'accord? Kemo Shechaninu, 2, 4, 5e ligne. Kemo Shechaninu ve Sivri, comment on est étudié dans le Midrash, Aliba de Chachamim. Aval, mais, ima yachol et atil et anirdaf, si on pouvait sauver le poursuivi, bechad mevarav, avec un des membres du poursuivant, ve avar ve argo, et on l'a quand même tué, Ou qui rotse argamour, on est un meurtrier. D'accord ? Donc ça, c'est un truc très dangereux. Ça veut dire que tu te mêles. D'accord ? Tu te mêles d'une histoire qui n'est pas la tienne. D'accord ? Tu vois un type et tu le tues alors que tu pouvais lui tirer dans les jambes, tu es qualifié de meurtrier. D'accord ? Comme la justice française a fait un peu ça. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'elle fait ça même avec les policiers. C'est ça qui est dangereux. Après, les policiers, ils ont les mains dans le dos. Mais si toi, tu as un quidam, et t'es là, t'assistes à une situation, tu dis, oh là là, il est en train de tuer le voisin, paf, je le tue. Et mon ami, pourquoi tu le tues ? Tire-lui dans les jambes. C'est ça qu'a dit la Torah.
Éviter.
Les firar, il dit, c'est pour ça, tsarich lomar, je pourrais te dire, des vayet serlo. Tu sais pourquoi il a eu peur, Yaakov ? Shma yarog et acherim, qu'il a eu peur de tuer des autres, les 400 bonhommes dont on avait dit les 400 en branquignol qui se baladaient avec Esav, lave à Esav les roues, et c'est pas pour Esav qu'il a eu peur de le tuer, de peur d'être maudit, Kae. Et là, cool où? C'est sur tous les 400. Ve'aïd est un chouma. Et comme c'est marqué dans le Midrash, bon, c'était Kamar et Kalino Aviv qu'il a eu peur que son père le maudisse, Achi Pirouchou. Ve'chitema, Bishlama, Bishar Anashim, que pour les autres, les 400, Shebaou et Mesav, Din Yeshlo Yaakov, Shiyetzerlo. C'était normal que ça lui fasse peur. Il dit pourquoi? Shma Yarog Mehem, parce que s'il va tuer un des 400, et que les 400 en vérité, ils n'étaient pas venus pour le tuer, donc il n'avait pas le droit de les tuer, il devait leur tirer dans les jambes. C'est-à-dire que c'est ça les états d'âme de Yaakov. Voyez? Regardez comment il découle toute l'histoire. Que Yaakov, finalement, il s'est dit, mais attends, ces 400-là, je vois que c'est des idiots. Des idiots finis, c'est pas des militaires, c'est pas des mercenaires. Je sais même pas s'ils ont pas été forcés. Bon, s'ils ont été forcés, tant pis pour eux, ils avaient qu'à ne pas refuser. Mais peut-être ils sont pas venus me tuer à moi. D'accord? Peut-être ils sont venus tuer autour. Et alors donc ils ont un digne de Rodef. Et si c'est ça, je dois leur tirer dans les jambes. Vous voyez, c'est tout ça qui s'est dit Yaakov. Des Dilma, Lonit Kavnou la Roboto. Peut-être il avait pas l'intention de le tuer. Elle a été un macherito. Peut-être il voulait tuer juste les gens qui étaient autour de lui. Venan et la Rodfim. C'est des poursuivants de la loi du Rodef. Velonitan gshut l'organe, et on n'a pas le droit de les tuer. Et là, kshena yechol le'atzil anirdaf becham evaram, que si je ne peux pas les empêcher de nuire en leur tirant dans les jambes. Ou parad, et lui, il a eu peur, shma yarog me'em berov bilboulo, qui va les tuer, tellement il va être les morts collatéraux, presque, ça ressemble. Tu vois, c'est-à-dire ça lui a fait peur. Il a dit, mais attends, ces gens-là, c'est pas avec moi qu'ils en ont. D'accord? Si je les tue, je dois les empêcher de nuire, parce que c'est des méchants. D'accord? Ils sont pas, c'est pas des enfants de cœur. Mais, si j'en tue un, là-dedans, ben, je suis responsable. Pourquoi tu veux que je les tue, là? Ils venaient pas m'attaquer à moi. Ils venaient tuer leur, je dois les blesser. Béchata milchama. Donc, c'est pas vraiment les morts collatéraux. Mais, en fait, c'est de ça qu'il a eu peur, Yaakov aussi. Ça veut dire, lui, il avait pas peur de tuer. Il avait peur de personne. D'accord? Mais il s'est dit, si je dégomme Yaakov, mon père, il va me maudire. Bon, ça je comprends. Si je dégomme les autres, alors ça dépend. S'ils ont vomi pour me tuer, alors tant pis pour eux. Mais s'ils n'est pas pour me tuer, donc c'est juste des poursuivants. C'est juste des gens qui l'ont par hasard. Et j'ai pas le droit de les tuer. Je dois leur tirer dans les jambes. Et dans l'affrontement de la guerre, j'ai risqué d'en tuer un. Et ça me fait peur, ça. Je veux pas rentrer dans une histoire comme ça de tuer des gens qui ne méritent pas la mort. D'accord? Donc en réalité, vous voyez, c'est ça. C'est un seul homme. Et regardez toutes les questions qui s'est mis dans la tête devant une guerre où les gens venaient le tuer. Il s'est dit, mais pourquoi, et peut-être, et si, et ça, et si je peux faire autrement, et puis si je peux les empêcher de venir. D'accord. Afalpi shayachol le'atzil becham evaram shel rodef, que il avait peur de les tuer pendant la guerre, dans la folie de la guerre, alors qu'il aurait pu sauver la situation en leur tirant dans les jambes. Et là, mais Esav, la maïtarla, et pour Esav, pourquoi il a eu peur? Va le Esav, va d'aïe le rogo comme Ekaven, mais Esav, c'est sûr qu'il veut te tuer. Va Torah Amra, et pourtant la Torah l'a dit, Abba le rogo, Hashkem le rogo. Mais Shivo, c'est pour ça que le Midrash, il a dit, qu'en vérité, il n'a pas eu peur de Esav. Qu'aide chez lui, Kalen Noav, il a eu juste eu peur d'être maudit par son père. Il dit pourquoi? Kilo Yarchov, jamais il pensera à vivre chez Esav, va le rogo, Yaakov. Jamais Yitzhak n'acceptera l'idée que Esav était venu tuer. Il dit, mais papa, il est venu avec un canon, avec un tank. Il dit, Share Bechezkat Kasher Ayetso. Parce que, pour Yitzhak, Esav était avec une présomption de Kashrut. Qui est des Navkalan, comme on a appris, Vayav Yitzhak et Esav, Feïssa, Yitzhak aime Esav, Gitzaïd Befiv. Il chassait dans sa bouche. Shayat Sadou Meram et Ataviv, il trompait son père Befiv. Abba, Echmasrin et Ateven, Betamelar. Papa, comment on prélève le maaser, la dîme de la paille et la dîme du sel? C'est-à-dire qu'il faisait semblant de faire croire à son père qu'il était un grand érudit, alors que c'était un vaurien. Donc on voit, c'est vrai que c'est un peu technique tout ce texte-là, mais en réalité, la technicité qu'il développe, en réalité, ça nous montre la complexité du raisonnement qu'avait Yaakov dans sa tête avant d'aborder cette guerre. Et mon frère, et les autres, quel statut ils ont les autres? Est-ce que j'ai le droit d'être tué? Est-ce que je ne dois pas plutôt? Et en réalité, je trouvais que c'était beau, parce que dans notre contexte, que en réalité, c'est probablement sur ces sentiments-là que s'appuie la moralité de l'armée. Qu'ils se disent, mais pourquoi je vais tuer? Bien sûr que c'est tous des bandits, bien sûr que tous les gens de Gaza, ils sont contents avec le Hamas, mais est-ce que j'ai le droit de les tuer? Est-ce que je ne dois pas les blesser? Est-ce que je ne dois pas? Est-ce que vraiment ils voulaient me tuer? Etc. Et donc c'est ce type de raisonnement poussé à l'extrême, c'est-à-dire, un, la légitime défense. Est-ce que oui ou non c'est de la légitime défense? Est-ce que oui ou non c'est de l'assistance à personne en danger? Est-ce que oui ou non je ne peux pas faire autrement plutôt que de le tuer, de les faire prisonniers et de leur tirer dans les jambes? Ça, c'est le type de questionnement que fait un juif avant de se battre. Voilà, c'est ça que je voulais montrer, la complexité du raisonnement. En fait, il n'y a aucune armée au monde qui raisonne comme ça. L'armée juive, elle raisonne comme ça. Voilà, mes chers amis. Tchabès. Oui.